Radio Albert Londres.
Des masques à gaz effrayants. Les soldats en perdent toute humanité. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, nous sommes en Belgique dans le musée In Flanders Field de Ypres. Le 22 avril 1915, lors de la deuxième bataille d'Ypres, les Allemands utilisent pour la première fois les gaz de combat toxiques. Fritz Haber, chimiste allemand, a supervisé cette attaque. Les spectateurs peuvent réécouter ses propos mis en scène dans une vidéo sur un grand écran.
Les armes chimiques semblent les plus adaptées, car le gaz peut vaincre sans problème des fortifications au sol et priver le défenseur de son abri. Notre artillerie et nos obus de mortier sont limités. La capacité de nos projectiles est trop faible pour une charge chimique. J'ai la solution à tous ces problèmes. J'opte pour la force de propulsion du vent et comme substance le chlore.
Kirsten, une jeune Allemande en visite, est consternée.
On entend le Fritz Haber qui a inventé les armes chimiques qui touchent beaucoup de monde. Donc c'est assez effrayant comment il parle, parce qu'il parle très clair, mais il ne se rend pas compte des effets que ça peut avoir sur les hommes. Ça choque un peu comment il parle d'une arme qui touche beaucoup de gens, qui tue beaucoup d'hommes et qui laisse des traces sur le visage des hommes qui ne peuvent pas vivre normalement après.
Les témoignages de victimes sont très rares. Olivier Lepic, spécialiste des armes chimiques de la Grande Guerre et chercheur associé à la Fondation de Recherche Stratégique, a pu rencontrer des poilus dans les années 90. Il explique pourquoi les Allemands ont eu recours à l'arme chimique.
Aucune des deux armées n'arrive à percer le front adverse. Et donc les états-majors, au fil de différentes tentatives, dont l'arme chimique, vont essayer de trouver des armes providentielles, des armes nouvelles, pour essayer de briser cette malédiction de la guerre immobile, qui a été la guerre des tranchées. Et donc l'arme chimique a été, je dirais, une tentative pour reconquérir le mouvement.
Le 22 avril 1915 à Ypres, les troupes belges, françaises et britanniques ont été les premières touchées par ces armes. 5000 soldats français y ont perdu la vie.
On a assisté à des scènes de panique absolument terribles, puisque les troupes françaises ont vu rouler vers eux, en cette fin d'après-midi d'avril 1915, un énorme nuage verdâtre au ras du sol, qui a très rapidement a asphyxié une grande partie des soldats français qui étaient présents et qui ont commencé, pour ceux qui le pouvaient encore, à se ruer en courant vers les deuxièmes ou troisièmes lignes en quittant leur poste.
Le gaz à base de chlore, puissant agent irritant, pouvait causer la mort par asphyxie. Très vite, les alliés y ont eu recours.
On a assisté entre 1915 et 1918 à une escalade à la toxicité, c'est-à-dire des agents de plus en plus efficaces, de plus en plus toxiques ont été utilisés et ça a constitué une véritable guerre scientifique, une guerre dans la guerre.
En 1917 apparaît le gaz moutarde, aussi appelé hyperite. Ce gaz a été le plus efficace de la Grande Guerre. L'utilisation des armes chimiques a suscité de nombreuses réactions.
Il y a eu une réaction de la communauté internationale, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit le Vatican, que ce soit les pays non belligérants. Tout le monde s'est indigné de cette violation caractéristique du droit de la guerre et du droit international par l'Allemagne. Mais je dirais que devant les horreurs de la guerre, cette réaction a été relativement, certes violente, mais elle a été courte et rapidement on est passé à autre chose. Et l'utilisation d'armes chimiques pendant le conflit est devenue quelque chose de relativement banal, même y compris au niveau des opinions publiques.
La plus grande conséquence de l'utilisation de cette arme sera le traumatisme des soldats, particulièrement pour ceux de la première ligne.
Alors les traumatismes sur les victimes, ils étaient physiques et ils étaient également psychologiques. Hein, physiques parce que effectivement beaucoup de soldats qui ont été gazés ont gardé des conséquences notamment pulmonaires très importantes, hein, difficultés respiratoires, poumons très endommagés, ce qui provoquait des pathologies chroniques, mais également des décès prématurés. Et les blessures d'un autre ordre sont les blessures psychologiques, parce que c'est une arme qui faisait particulièrement peur et qui avait une dimension psychologique très importante qui s'apparentait au poison, c'est-à-dire autant les hommes acceptaient et comprenaient le principe de l'obus conventionnel, l'explosif, ces morceaux de métaux qui volaient dans les airs et qui déchiraient les chairs, autant les gaz étaient associés au poison, à une mort douloureuse et longue, et donc les séquelles psychologiques sur les soldats étaient également très importantes. C'était vraiment l'arme de la terreur.
Une mort lente et douloureuse pour certains, des troubles du comportement pour d'autres, De nombreux combattants garderont des séquelles toute leur vie. Un siècle plus tard, des soldats et des populations civiles sont encore touchés par ces armes. C'est ce que nous rappelle Pierre Servant, lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre et spécialiste des conflits.
La chimie s'étant développée depuis la Première Guerre mondiale, les produits sont encore plus sophistiqués et s'attaquent encore plus rapidement au système nerveux. Donc ils ont gagné en capacité de diffusion et en capacité de destruction des systèmes nerveux des êtres humains. Donc ils sont encore plus meurtriers. Les seuls épisodes militaires que je connaisse où il y a eu l'utilisation de l'arme chimique, c'est l'année dernière donc en Syrie. C'est l'utilisation par Saddam Hussein contre le village kurde, donc je crois que c'est en 88. Et puis pendant la guerre Irak-Iran, où l'Irak là aussi a utilisé assez largement son armement chimique.
En 1997, la convention sur l'interdiction des armes chimiques est entrée en vigueur. 190 pays ont ratifié le traité. Suite aux pressions de la communauté internationale, la Syrie, détentrice d'armes toxiques, a ratifié la convention en octobre 2013. Depuis, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques travaille à la suppression de ces armes. Près de 8% de l'arsenal chimique du pays doivent encore être détruits.